Vous écoutez L'Ambition au féminin, épisode 120.
Mon nom est Altona Saint-Louis et j'anime L'Ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel, c'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde.
Salut les ambitieuses, comment vous allez aujourd'hui? J'espère que vous allez super bien. Ici, c'est un petit peu le rush, mais c'est un rush très positif parce que je m'en vais en vacances dans 2 semaines pour un gros 2 semaines et je m'en vais pas à un endroit très commun, hein? Je m'en vais à Hawaï et ça me procure un peu de stress, mais je me rappelle à l'ordre un petit peu parce que ça me procure du stress parce que je pars avec ma fille, je pars avec ma mère, je vais aller faire une retraite aussi avec un mastermind dans lequel je suis, puis j'ai vraiment, vraiment hâte, mais ça fait aussi qu'on a crunch time et aussi vu que je suis en train de préparer le challenge 5 jours pour rendre ton offre de service irrésistible, on a pas mal de petits trucs à finir. J'ai envie de donner le challenge avant de partir pour un petit cadeau, là, avant genre de m'étendre sur la plage et puis de permettre aux gens, dans le fond, de venir travailler un petit peu avec moi avant que je fasse une longue pause avant la réouverture des portes de Money Brand en mai. Donc, voilà, si tu veux les infos pour le challenge, c'est mtamar.com/5 jours si tu veux t'inscrire. Et aujourd'hui, pour l'épisode de podcast, je reçois une personne que je connais depuis quand même assez longtemps parce que on s'est suivi l'une l'autre aussi depuis la pandémie. Puis je me rappelle que Lauriane était une des premières à avoir pris un de mes premiers appels exploratoires que j'avais ouvert quand je me suis lancée à temps plein dans mon entreprise et je n'oublierai jamais dans le fond ce moment parce que tu sais ces moments fondateurs sont super importants et je suis contente de la recevoir aujourd'hui parce que Lauriane a une expertise vraiment unique et vraiment tu sais c'est pas dans mon champ d'expertise régulier. Fait que c'est super intéressant d'avoir sa perspective à chaque fois parce que Lauriane est orthophoniste et aussi entrepreneur et entrepreneur digital, infopreneur d'une certaine façon. Et toute cette conjonction de ces expertises-là fait qu'elle a un bagage extrêmement riche à partager, surtout par rapport à ce qui a trait à des professions qui sont peut-être un peu plus considérées comme traditionnelles. Et moi, j'adore entendre parler des différents modèles, pas juste des modèles d'affaires, mais de comment il y a différentes façons de servir certaines populations. Et puis, ben Lauriane, ben c'est ce qui est intéressant avec son cas, c'est que elle sert les enfants, mais elle sert aussi les parents, elle sert aussi les spécialistes qui, tu sais, les éducatrices, les spécialistes qui aident dans le fond ces enfants-là ultimement. Et au fur et à mesure de connaître un peu son parcours, ben j'ai vu aussi son parcours évoluer de comment elle a utilisé de plus en plus les outils du web pour apprendre à se démarquer, mais aussi pour traverser certains défis qu'elle rencontre au quotidien, comme par exemple des défis qui viennent avec ce genre d'expertise-là, ce genre de métier-là, qui, pour n'en nommer qu'un, peuvent être assez... puis pour n'en nommer qu'un, je nomme ici les ordres professionnels, par exemple, peuvent être assez étouffants quand on essaye d'innover dans ce genre de milieu-là. Alors, qui est Lauriane Lacerte? Elle est, comme je l'ai dit, entrepreneure et orthophoniste depuis 11 ans. Il y a 2 ans, elle a décidé de s'éloigner du modèle classique d'évaluation suivi d'intervention pour migrer son travail vers l'infopreneuriat. Donc, l'infopreneuriat, c'est vraiment de vendre des formations en ligne, de vendre du digital. Et même en étant à la tête d'une grande équipe, elle n'arrivait pas à réduire le temps d'attente ni à aider tous ceux qui cognaient à sa porte pour obtenir de l'aide. Alors, elle a revu complètement son offre de service, elle a brisé le moule et elle a réinventé les règles. Et ça, c'est ce que j'adore le plus de Lauriane. Via des formations et du coaching parental, elle informe les parents et les intervenants en petite enfance sur le développement langagier attendu et sur les meilleures stratégies de communication à intégrer au quotidien. Si vous ne suivez pas encore Lauriane, elle a un excellent podcast. Vous pouvez aller la suivre aussi sur Instagram où elle a du contenu vraiment puissant et vraiment intéressant. Puis c'est pas juste pour si vos enfants ont des problèmes ou des difficultés langagières, mais selon moi aussi, puis moi j'ai une enfant de 3 ans, hein, c'est vraiment intéressant à suivre aussi pour tout ce qui est l'évolution du langage chez nos enfants, puis vraiment bien comprendre aussi qu'est-ce qui se passe dans leur petite tête quand que on interagit avec eux de cette façon-là. Alors, sans plus attendre, je vous laisse avec notre conversation. Vous allez voir, on va parler justement de comment elle a fait ce switch vers l'infopreneuriat, qu'est-ce que ça a impliqué comme changement, les difficultés qu'elle a rencontrées en cours de route, puis comment elle a réussi justement à prendre ce rôle d'innovatrice dans un milieu qui a parfois, puis là je vais le dire avec des pincettes, de la difficulté à bouger ou à changer les codes. Donc ça va être intéressant aussi pour n'importe qui si vous écoutez ça et vous êtes dans un métier ou dans un corps de métier justement qui a ces genres de structures quand même assez puissantes pour penser comment est-ce que ça pourrait être possible d'innover parce qu'on innove toujours pour rendre quelque chose meilleur. Hein. C'est pas juste pour chialer, mais c'est vraiment pour rendre quelque chose meilleur et c'est vraiment cette vision-là que Lauriane apporte à propos de l'orthophonie, à propos de son travail. Alors, je vous laisse avec Lauriane Lacerte et on se dit à très vite. Hello, hello Lauriane! Comment ça va?
Ça va très bien, toi?
Ça va bien, je suis contente de t'avoir ici avec moi pour l'ambition féminine. Ça fait tellement longtemps qu'on se connaît, j'ai l'impression. Puis là, je suis comme, ah, enfin, on va pouvoir avoir une conversation en long et en large.
Oui, super excitée. Merci de l'invitation.
Yes. Bon, ben, tu es une habituée du podcast. Je sais que tu l'écoutes souvent. Fait que tu sais que j'ai toujours mes questions brise-glace du début. Puis je ne sais jamais laquelle je vais poser à qui quand je les vois arriver. Mais aujourd'hui, la question que j'ai envie de te poser, c'est: pour toi, c'est quoi l'ambition?
Oh, c'est une bonne question! Pour moi, c'est quoi l'ambition? OK, je vais y aller spontanément comme ça. Je te dirais, l'ambition, c'est, je vais dire, avoir l'audace de faire ce qui nous motive, ce qui nous drive, ce qui nous fait vibrer. Puis, c'est ça, avoir l'audace de tout faire ça sans trop, je vais dire, sans trop considérer ce que les autres personnes en pensent ou, ouais, vraiment, sans considérer nécessairement ce que les autres vont en penser ou comment ils vont juger ça. Fait que mettre de l'avant, c'est ça, nos idées, nos projets, sans se limiter.
Ouais, j'adore! Puis j'aime ce mot audace et courage. Tu sais, il y a vraiment cette notion ici de être vrai à soi, à quelque part, puis d'aller au-delà de ce qui pourrait nous bloquer, qui vient souvent de l'extérieur, hein, à travers...
qui vient de l'extérieur, je dirais, ou qu'on a intégré avec le temps. Moi, je suis beaucoup dans cette réflexion-là ces temps-ci. Tu sais, il y a des choses que j'ai l'impression qui ne sont pas nécessairement autour de moi en ce moment, mais que ça a tellement été ancré en moi que j'ai l'impression que ça vient de moi, mais finalement, ça ne vient pas nécessairement de moi, là.
Ouais. Oh my God, je te comprends tellement. Puis, en tout cas, je te comprends tellement. Moi, je réfléchis. Moi, j'ai une fille de 3 ans et demi. Puis de plus en plus, ça avance. Puis je me dis, là, elle est full dans les trucs de princesse, puis des choses comme ça. Puis je suis comme, c'est définitivement pas moi qui l'a amenée là-dedans. Mais je sais aussi que ça va comme former tellement de visions sur le genre, sur... En tout cas, bref, je vois ce développement-là, tu sais, comme devant mes yeux, puis ça me fait réfléchir à mon propre développement, puis comment j'ai intégré toutes ces notions-là aussi dans ma vie, puis dans qui on doit être et comment on doit l'être.
Mm-hmm. Oui, vraiment. Définitivement.
Bon, puis je parle de ma fille, mais tu sais, toi, tu travailles avec les enfants beaucoup en tant qu'orthophoniste. Mm-hmm. Puis j'avais envie que peut-être tu nous parles, tu sais, c'est rare que je demande vraiment tout ce parcours-là, mais je pense que dans ton cas, c'est intéressant d'avoir un aperçu un peu de ton parcours, tu sais, au niveau professionnel, comment t'es passé justement, tu sais, t'es devenu orthophoniste, t'as fait tes études, après ça, t'as eu une clinique. Puis là, aujourd'hui, tu as fait une transition vers le web, tu as ton podcast, tu es une figure vraiment comme un thought leader, tu as comme une communauté aussi qui te suit beaucoup au niveau professionnel. Tu sais, comment ça a été quoi pour toi cette transition-là? Puis ça a été quoi le déclic ou les déclics qui se sont passés pour toi au travers de ton cheminement qui t'ont amené à, puis je dirais pas te réinventer, mais poursuivre cette voie-là?
Oui. Oui, ben écoute, c'est venu vraiment graduellement tout ça là, c'était pas prémédité ou prévu. Je te dirais que c'est ça, quand j'ai commencé, je travaillais pour une autre clinique. Là, j'ai toujours travaillé en privé, dans pratique privée. Pour moi, c'est important d'être ma propre boss ou de choisir un peu ma clientèle et tout ça. Fait que pour moi, ça a toujours été là. Puis éventuellement, on a déménagé, j'ai ouvert ma propre clinique. Je me suis dit, OK, parfait, il n'y a pas grand-chose dans la région où je m'en allais. Je vais ouvrir mon entreprise à moi. Mais j'étais toute seule, là. C'était moi et moi. Et ça a fini par déborder. Là, j'ai fini par avoir une équipe. Ça aussi, je n'avais pas prévu de devenir gestionnaire d'une équipe. Là. C'était pas dans mes plans au début. C'est un peu venu par la bande, par des personnes. En fait, c'est toujours des personnes qui sont venues vers moi. C'est ça que je remarque, tu sais, j'avais pignon sur rue à l'époque, j'avais ma clinique d'orthophonie, j'avais engagé une étudiante à la maîtrise pour m'aider parce que ça débordait, puis après ça, c'est vraiment des gens qui sont venus vers moi, « Hey, salut, j'aimerais ça faire du privé, tu sais, est-ce que je peux me joindre à toi, à vous? » Puis là, ça a commencé à grossir comme ça, puis éventuellement, oui, moi, j'ai fait du recrutement, puis j'ai essayé d'agrandir parce que là, j'avais comme mission d'être la plus grosse clinique multidisciplinaire ou interdisciplinaire de ma région, tu sais, c'était ça mon ambition à ce moment-là. Puis l'idée en arrière de ça, ça a toujours été d'aider plus de personnes. Mm-hmm. Parce que j'ai toujours atteint une limite dans ma capacité d'aider les gens par mes contraintes d'horaire, de temps et tout ça. Dans les services plus traditionnels où je voyais un client à la fois pendant une heure, tu sais, à un moment donné, on atteint une limite à ce qu'on peut faire. Fait que ça a toujours été ça mon objectif, voir plus de gens, aider plus d'enfants, comment je peux faire ça, avoir une plus grosse équipe. Fait que ça a toujours été comme ça. Puis éventuellement, j'ai eu moi j'appelle ça des agents multiplicateurs ou des aides. Justement, je travaillais beaucoup avec des étudiantes en orthophonie, je travaillais avec des intervenantes en stimulation du langage qu'on appelle. Donc des personnes qui travaillent en collaboration avec nous, mais qui ne sont pas orthophonistes, soit qui sont aux études ou soit qui ont une formation là, pour faire de la stimulation du langage. Puis ça me permettait de voir de plus en plus de personnes. Parce que c'était pas juste moi qui voyais des gens. Je pouvais déléguer des suivis à d'autres personnes. Fait que ça a toujours vraiment été ça, mon objectif. Puis je me suis rendu compte au fil du temps, j'avais une clinique, ça faisait plusieurs années, j'avais une très grosse équipe. J'atteignais toujours cette limite-là. J'arrivais toujours à une capacité maximale où là, j'avais une nouvelle personne, ça allait bien pendant 3, 4 mois, 6 mois. Puis là, son horaire à elle était rempli. Mm-hmm. Ça fonctionnait plus, il fallait une autre personne, puis éventuellement des personnes, il n'y en a pas à l'infini non plus. Donc dans la réalité des choses, je me suis dit, ça fonctionne pas, ce système-là fonctionne pas, il y a quelque chose dans la façon d'offrir les services qui fait pas de sens, puis c'est le problème. Puis en fait, je suis très impliquée dans ma communauté, je parle beaucoup avec des collègues, on a des groupes de discussion, tout ça, puis tout le monde arrive un peu au même constat, on a toujours une capacité limitée. C'est vraiment comme dans ma tête, qu'est-ce que je peux faire de complètement différent? Comment je peux rebrasser tout ça, revoir, sortir du cadre, sortir du moule, puis essayer de faire les choses différemment de tout le monde, en fait, pour briser cette limite-là, là, cette capacité maximum-là qu'on avait de voir des gens.
Puis est-ce que ça a été un hasard que tu t'es tournée vers le milieu du web? Parce que c'est sûr qu'on s'entend, je pense que la majorité des entrepreneurs web, ils sont dans des secteurs ou dans des champs d'expertise qui sont vraiment moins encadré que le tien, tu sais, c'est le marketing, c'est même des fois, tu sais, il y a beaucoup de coach fitness puis des choses comme ça, mais à quelque part, tu sais, c'est pas un milieu où on voit des orthophonistes tout le temps. Fait comment t'es arrivée à voir une opportunité là, par exemple?
Je te dirais la portée qu'on peut avoir sur le web versus ce qu'on peut avoir localement, parce que, tu sais, Puis en fait, c'est quand j'ai quitté ma clinique, j'ai fermé ma clinique éventuellement, j'étais très connue dans la région. Là, mm-hmm. Je veux dire, on cherchait une orthophoniste dans la région, c'était clair qu'on tombait sur moi ou la clinique. C'était très clair. Mais en même temps, j'avais l'impression que ce que j'avais à offrir, j'ai commencé à développer des services justement différents, faire de la formation, tout ça. Puis il y avait une contrainte, je te dirais, c'était juste avant la pandémie, là, tout ça, mm-hmm. une contrainte de déplacement pour les parents, de temps, de local et tout ça, tu sais. Fait que c'était plus facile pour moi, je me disais, de faire des formations ou de donner des ateliers en ligne que de les faire en direct pour la réalité des parents. Puis là, boum, comme quelques mois après pandémie, tout ça, nous-mêmes, on était fermés pendant un bout de temps, là, physiquement, là, ma clinique était mm-hmm. fermée. Donc, là, c'était comme, OK, il faut vraiment que je trouve une façon de rendre les services autrement, en fait. Mais c'était vraiment ça. Puis éventuellement, je suis restée là-dedans parce que j'aurais pu dire, bon, on est revenu en présentiel, mm-hmm. tout ce qui est sur le web. Puis j'ai vu la portée que j'avais. J'ai vu, en fait, que je pouvais aider une éducatrice qui était en Abitibi, tu sais, puis ou à Côte-des-Neiges. Puis il n'y avait pas d'orthophoniste disponible à Montréal. Fait qu'elle venait vers moi, tout ça. Fait que j'ai vu la portée que je peux avoir à grande échelle. Puis dans ma mission d'aider plus de personnes possible, ben c'était pour moi une super belle opportunité. Là.
Ouais. Est-ce que c'est à peu près à ce moment-là que tu as commencé ton podcast pendant la pandémie?
C'est l'année après. Fait que dans le fond, j'ai commencé mon podcast en 2021, en janvier 2021. Ouais.
Parce qu'en fait, c'est une super belle plateforme que tu utilises pour rejoindre beaucoup, beaucoup de monde. Là.
Oui, vraiment. Puis tu sais, j'ai comme commencé à faire un podcast justement pour être plus connue, être plus visible parce que j'avais des services émergents. Tu sais, je commençais à faire des services en ligne, offrir des formations, tout ça. Puis je me suis dit, OK, comment je peux me faire connaître? Hein? Parce que c'est un peu ça le défi quand t'es en ligne. Fait que j'ai décidé de me lancer vers le podcast. Puis c'est un format qui me convient très bien aussi. Donc, mm-hmm. C'est un peu pour ça que je suis allée vers ça. Puis je pense que ça convient aux parents aussi, qui peuvent l'écouter, aux jeunes mamans qui ont leurs enfants, promenades, poussettes, tout ça. Fait que je trouvais que c'est un format qui convenait beaucoup aux parents aussi. Je me reconnaissais beaucoup là-dedans, moi, comme maman, donc...
J'aimerais que pour une orthophoniste, ça fait du sens. C'est pas parler. Ouais.
Puis il y avait une collègue, en fait, j'ai une collègue, rendons à César, là, ce qu'il y a à César, mais j'ai une collègue orthophoniste qui avait un podcast puis que j'aime beaucoup puis qui m'inspire beaucoup aussi. Mais elle avait un podcast qui s'adresse vraiment aux orthophonistes. Alors que moi, mon objectif, c'était vraiment de m'adresser aux parents, aux éducatrices, aux enseignantes. Donc, c'était comme on avait deux clientèles un peu différentes. Fait qu'elle, elle le faisait, là, j'étais peut-être à une dizaine d'épisodes là, au début, là, quand moi, j'ai commencé à faire mon podcast. Fait que j'étais comme, OK, je vais comme m'inspirer aussi de ça, mais avec une clientèle différente. Fait que, ouais.
Cool! Puis, c'est ça, hein? Puis, en tout cas, c'est moi qui viens beaucoup du marketing en ligne, des choses comme ça. C'est sûr que j'ai vu les différents modèles qui venaient souvent des États-Unis, hein, de comment faire du branding, puis mm-hmm. Des cours en ligne, puis les funnels, puis les lancements, puis des choses comme ça. Pour toi, qui venais justement d'un milieu où j'imagine qu'on t'a pas appris à faire ça, ça a été quoi peut-être la plus grande courbe d'apprentissage ou les choses où est-ce que c'était... Tu sais, t'as vraiment dû apprendre from scratch, genre dès le départ de... tout ce milieu-là puis cette dynamique-là.
Oui, bien, je te dirais vraiment tout, dans le sens où ça a été... puis j'adore apprendre, j'adore me former, puis je suis beaucoup, beaucoup, beaucoup de formations, je suis beaucoup de podcasts, j'écoute beaucoup de choses aussi, fait que ça m'aide à aller chercher beaucoup d'informations, mais honnêtement, j'avais aucune connaissance sur rien qui était, tu sais, même on avait une page Facebook, mettons, pour la clinique, mais vraiment à petite échelle parce que j'ai jamais eu à faire de promotion mm-hmm. de marketing parce que nos services sont toujours pleins. C'est vraiment ça la réalité. Donc, j'avais jamais vraiment fait ça, tu sais, à part pour des offres d'emploi. Je fais du marketing pour recruter des gens, mm-hmm. pas pour vendre des services. C'est vraiment ça. Fait que je te dirais, tout ce qui est... mon plus gros apprentissage, ça a été vraiment un peu de doser entre qu'est-ce qui est la création de contenu que je peux utiliser, par exemple, pour faire des formations ou pour vraiment aider les gens, puis qu'est-ce qui est vraiment de la promotion, du marketing. Tu sais, faire tout ça, puis gérer ça dans mon horaire, de, tu sais, quand est-ce que je vois des clients, quand est-ce que je crée du contenu de formation, qu'est-ce qui est gratuit, qu'est-ce qui n'est pas gratuit. Tout ça, c'est quand même complexe, je te mm-hmm. dirais. Fait que ça a été quand même utile pour moi de faire la part des choses dans tout ça. Puis d'être, tu sais, je suis comme plus visible, plus présente, mais tu sais, au début, je n'avais pas vraiment l'habitude non plus d'être upfront, puis d'être là, puis de parler, puis de m'exprimer, puis tout ça. Fait que ça a été quand même c'est vraiment un gros défi là, au début dans la présence web, puis de partager des idées qui ne sont pas toujours les mêmes que tout le monde, d'accepter que ce n'est pas tout le monde qui a les mêmes idées que nous. Ça va le faire à petite échelle quand on jase avec une collègue dans le bureau voisin, c'est une chose. Le faire sur le web et recevoir tous les commentaires positifs et des fois négatifs qui viennent avec ça. Fait que tout ça, ça a été... je te dirais que ça a été beaucoup, beaucoup d'apprentissage. Mais j'ai été comme... c'est ça, j'allais me chercher de l'aide. J'ai vraiment été me chercher de l'aide tout le long du chemin là, pour y arriver.
Ouais, puis c'est ça. Là, c'est, tu mets en place ces espèces de... probablement les obstacles, ben les obstacles ou les défis que tu as rencontrés. Puis il y en a un que je trouve super intéressant puis auquel on pense jamais, nous qui ne sommes pas dans cette circonstance-là, mais c'est aussi les limites de ta profession puis de ce que tu peux faire ou ne pas faire parce que, à quelque part, puis tu sais, même dans le marketing en ligne, hein, on le sait, puis ça a évolué, les choses, tu sais, les gens sont de plus en plus, ils veulent de plus en plus faire du marketing éthique, puis être très bienveillant dans leur pratique. Mais on sait qu'il y a aussi une vague de marketing qui était, tu sais, dans la j'ai pas envie de dire la manipulation, mais presque, tu sais. Fait qu'il y a des je pense qu'il y a probablement des règles qui faisaient partie de ton ordre professionnel, par exemple, pour protéger les gens de ce genre de choses-là. Mais là, vu que c'est un milieu qui évolue, en tout cas, il y avait beaucoup de flou, fait que peux-tu peut-être adresser comment ça a été, justement, tu sais, perçu de la part peut-être de l'extérieur de ton... ben, pas de l'extérieur, mais des autres personnes dans ton domaine, de rentrer dans ce type de pratique-là qui est complètement différente de ce qui est fait, qui a du potentiel, et je suis sûre qu'il y a beaucoup de monde qui le voyait, mais aussi qui pouvait faire peur, puis qu'est-ce qui faisait peur spécifiquement?
Oui. Oui, bien, beaucoup de choses. Grande question. Bien, c'est ça. Fait qu'en fait, tu sais, qu'est-ce qui fait peur ou qu'est-ce qui... Justement, je pense que c'est la peur de profiter des gens ou de, tu sais, justement, tout ce qu'on conçoit en lien avec le marketing, comme, mettons, l'urgence ou tout ce qui est, mettons, les prix, tu sais, ça, c'est une grosse partie dans le sens où, tu sais, dans notre profession, nos prix sont, je ne vais pas dire qu'ils sont fixés, là, mais on a des règles un peu floues dans notre code de déontologie qui dit qu'on doit charger en fonction de nos connaissances, compétences. Tu sais, il y a comme des barèmes dans tout ça. L'association va mettre en place une grille tarifaire. Tu sais, on n'est pas obligé de suivre ça, mais on ne peut pas non plus charger super cher. Fait, juste cet aspect-là, de dire « OK, je vais vendre des choses », c'est juste l'aspect de faire de l'argent, là. C'est super tabou dans notre profession, dans notre milieu. Fait que, tu sais, faire des lancements où on va faire des ventes de quelque chose ou des programmes en ligne, tu sais, à plus long terme avec un montant qui va être réparti parce qu'on n'a pas le droit, entre guillemets, de charger tout d'un coup. Tu sais, il y a plein de règles en arrière de ça qui sont très complexes. Fait que même si on est conscient de ça puis on connaît les règles, les gens ont comme peur qu'on respecte pas ça ou qu'on essaie justement de charger plus parce qu'on a quelque chose qui est disponible maintenant versus les autres personnes qui attendent. Fait qu'il y a tout cet aspect-là en lien avec, je te dirais, l'argent qui est derrière ça. Il y a beaucoup l'aspect de... c'est ça, de profiter des autres ou des personnes connues ou de profiter de notre nom, tu sais. Il y a une grosse... Je te dirais que dans les codes de déontologie, codes des professions, il y a beaucoup la notion de conflit d'intérêts. Donc, il ne faut pas être en conflit d'intérêts. Fait que théoriquement, je ne peux pas proposer quelque chose à un parent. Tu sais, je vais te dire un exemple. Mettons un jeu, un livre. Bien, je ne peux pas proposer quelque chose à un parent si ça me rapporte en arrière. Okay? Puis rapporter en arrière, c'est très flou et c'est très vague. Donc, tu sais, par exemple, si moi, je décide de faire la promotion d'un livre, par exemple, que je trouve vraiment chouette et que moi, j'en parle publiquement parce que je me dis, ce livre-là, il est parfait, ça va vraiment aider les enfants. Voici le livre, c'est tel auteur, tout ça. Bien, on va comme prendre pour acquis que je retire un bénéfice de faire ça parce que, en faisant la promotion d'une maison d'édition, d'un auteur, bien, lui, il pourrait parler de moi. Puis s'il parle de moi, bien là, j'en tire un bénéfice. Même si je ne sois rien, là. Rien. Mm-hmm. C'est ce genre de bénéfice-là. Puis c'est un pouf. c'est flou quand même, je te dirais, tu sais. Fait un peu tout ça, tu sais, tout ce qui est des collaborations, justement, tu sais, moi, je suis pour les collaborations, je trouve que c'est super pertinent, mais tu sais, par exemple, si je vois quelque chose passer d'une autre professionnelle et que moi, j'en parle sur mon compte d'orthophoniste, par exemple, sur les réseaux sociaux, on prend pour acquis que je fais de la promotion pour cette personne-là. Alors que mon objectif, à la base, c'est juste de partager. Bien, regardez, elle a fait ça. C'est vraiment intéressant d'aller jeter un œil à ça. Mais en arrière, ça pourrait me rapporter des bénéfices parce qu'elle, elle pourrait reparler de moi. Je sais pas si tu vois. Fait que c'est super. Puis c'est, tu sais, c'est, ça, c'est des pratiques très, très standards. Tu sais, quand on parle de réseaux sociaux, de web ou tout ça, faire des mentions de quelqu'un ou faire des hashtags... tout ça, ou parler, tu sais, je parle d'un jeu, je vais le mentionner, c'est quoi le jeu, tu sais, je vais pas faire semblant, ouais. Je vais pas le cacher, là, c'est pas ça l'objectif, mais c'est ça, fait que ça, c'est comme, c'est vu comme profiter un petit peu de notre influence ou de notre pouvoir pour peut-être retirer des bénéfices ou justement de notre pouvoir d'influence. Fait que tout ce qui est le mode, tu sais, on nous considère quand on est présent en ligne comme professionnel, on nous considère comme un influenceur-influenceuse. Puis théoriquement, j'ai pas le droit d'être un influenceur. J'ai pas le droit d'influencer les gens à faire des choix. Fait que ça aussi, c'est toujours très... tu sais, en fait...
Puis la logique derrière ça, juste pour que... Parce que je comprends... En fait, je comprends ce qui se passe, mais j'essaie de comprendre la logique. La logique, c'est que on veut pas qu'il y ait des groupes de personnes qui se mettent ensemble puis qui, là, abusent de... clients ou, tu sais, de personnes qui auraient besoin des services qui sont pas capables de faire la part des choses.
Oui, c'est ça. C'est comme si on prend... Moi, c'est un point de vue, OK? J'ai comme l'impression qu'on prend pour acquis que les personnes, justement, les autres personnes n'ont pas de jugement ou sont pas capables de faire la part des choses, tu sais. Mm-hmm. Donc, si je lui dis voici telle psychoéducatrice, je l'aime bien son approche, voici ce qu'elle prend, je trouve ça pertinent, voici tel jeu que tu pourrais utiliser, c'est super chouette, tu peux travailler ça avec le jeu. Tu sais, quand on met de l'avant des personnes comme ça, des compagnies, des jeux ou tout ça, ils ont comme l'impression que le parent va courir pour voir cette personne-là prendre rendez-vous ou acheter le jeu, alors que les parents, selon moi, ils ont quand même un jugement, puis ils vont pas nécessairement faire tout ce que je dis parce que je le dis. Fait que c'est ça, la ligne est comme mince entre, ben c'est un conseil professionnel utile pour plein de gens, tu sais, pourquoi on peut pas en parler, et ben à ce moment-là, on influence les gens, puis on va les diriger vers quelque chose en particulier, puis là, c'est dangereux qu'on dirige toujours vers la même personne ou le même jeu, c'est comme si... Je dirais qu'au lieu de faire le suivi des abus, de dire ben cette personne-là dirige toujours vers cette compagnie-là, donc peut-être qu'elle a un bénéfice ou elle a une ristourne ou elle a des jeux qui sont donnés à cause de ça. Au lieu de faire ce suivi-là, c'est comme si personne doit parler de rien au cas où que peut-être on soit en apparence de conflit d'intérêts. C'est vraiment ça. T'sais. Fait que c'est ça la logique en arrière. Fait qu'au lieu de jouer à la police de elle fait-tu bien, elle fait-tu pas bien, c'est-tu correct qu'il y a-tu une rémunération en arrière de ça parce qu'on peut pas être payé là, pour faire de la promotion. Fait qu'au lieu de faire ça du petit suivi individuel de possibles problèmes réels, bien, on met une balise qui empêche complètement de faire ce genre de démarche d'intervention-là.
Ouais, OK. Ça complique pas mal les choses. Puis comment t'as fait, toi? Ben justement, parce que là, tu as un podcast, puis tu as des invités sur ton podcast. Oui. Tu as une formation là, que tu lances en collaboration avec une autre professionnelle. Fait que comment, toi, tu sais, t'as pas détourné, mais comme interprété ça, ou comment tu travailles avec ça, sachant que ça peut être vu comme allant à l'encontre de ton ordre?
Oui. Bien, je te dirais que les seules fois que je vais faire, ma façon à moi de le gérer en ce moment, c'est de faire justement des collaborations dans lesquelles on est impliqués toutes les deux. Donc, à ce moment-là, quand je collabore, mettons, je monte une formation avec une collègue, bien, toutes les deux, on fait la promotion mutuelle de notre formation, mais je suis partie prenante d'eux. Okay? Fait que c'est vraiment ça. On peut faire, puis je m'étais renseignée, parce que je me renseigne souvent, tu sais, faire la promotion de choses auxquelles tu participes. Ça peut être des événements auxquels tu participes. Ça peut être mettons, un site web sur lequel je publie quelque chose. Il faut que le site web réponde à tous les critères. Okay, ça, c'est une autre histoire. Mais bref, il y a comme plusieurs critères. Mais quand, mettons, si j'écris sur un site web qui répond à tous ces critères-là, ben je peux en parler parce que c'est mon contenu, c'est moi qui le crée, qui est là. Fait que, tu sais, je fais partie d'un collectif de professionnels aussi, puis on fait de l'accompagnement parental, des formations en ligne, tout ça, ben je peux parler de ce collectif-là parce que je fais partie du collectif. Mais je peux pas parler de la nutritionniste ou de la psychoéducatrice du collectif de façon individuelle. Je peux parler « voici ce que nous on fait ensemble ». Je peux partager ce qui est fait parce que je suis membre du collectif, mais je ne pourrais pas référer directement à une. C'est comme, c'est comme ça que moi, je l'ai à ce point-ci interprété. Puis, je te dirais que dans le passé, ce qui est un peu aussi un peu inquiétant, je te dirais, comme qui nous pèse un peu toujours sur les épaules, c'est que dans le passé, quand on faisait de la promotion de livres, tout ça, moi, je faisais là, des reels de « voici les 3 livres coup de cœur pour les 4-5 ans », puis là, j'avais plein de commentaires, les gens étaient super contents, j'expliquais les livres, comment on pouvait les utiliser, pourquoi je les aimais, comment choisir bien un livre, tu sais. Je pensais que c'était correct. Il y a de cela un an et demi, tu sais, personne, tu sais, selon nos codes de déontologie puis le code des professions, c'est des articles de loi, là, tu sais. C'est mon interprétation que j'avais fait à cette époque-là de ça, ben j'avais pas le livre, tu sais, j'en retirais pas grand-chose, là. J'en parlais parce que je jugeais que c'était pertinent, je faisais pas ça pour avoir un bénéfice quelconque en arrière. Fait qu'à ce moment-là, je jugeais que c'était correct, tu sais. Fait qu'à ce point-ci, moi, j'ai pris des décisions, je réfère toujours aux documents, j'appelle souvent l'ordre, tout ça, mais je prends mes décisions en fonction de ce que je juge une bonne interprétation. Est-ce que dans un an, on va revenir contre moi pour me dire « t'as pas le droit de faire ça ».
Oui, parce que dans le fond, c'est ça, hein, une interprétation, ça peut aller dans les deux sens, puis tu peux appeler l'ordre, puis ils vont te dire « oui, c'est correct », puis 2 semaines plus tard, tu l'appelles, puis il y a une autre personne, puis ils te disent « ah, finalement, non, on pense que non », puis tu sais, en tout cas, c'est ça qui... Ouais. Ça doit être frustrant.
C'est frustrant, puis c'est... Je veux dire, on apprend moi, j'ai appris à vivre avec, mais tu sais, c'est quand même stressant parce qu'il y a des choses que j'avais fait dans le passé qu'on m'a demandé de détruire, là, de retirer du web carrément, tu sais, puis c'est des heures et des heures de travail. Fait que si on m'arrive puis on me dit un jour, ben ton podcast, t'as pas le droit d'inviter les gens puis qu'il faut que j'enlève toutes mes entrevues, on s'entend que c'est des heures et des heures et des heures et des heures de travail, tu sais. Puis une des choses qui est intéressante à savoir, je te dirais, par rapport aux autres, c'est que c'est pas nécessairement l'ordre comme tel qui va de l'avant puis qui va regarder tout ce qui est fait de pas correct. Je te dirais, ils ont même pas le droit de faire ça. C'est vraiment quand il y a des plaintes qui doivent agir. Fait qu'habituellement, c'est ça, c'est quand il y a des plaintes, il y a des personnes qui vont faire une plainte parce qu'ils vont dire que telle personne, telle action, qu'est-ce qu'elle a fait, ça respecte pas le code ou on pense que ça respecte peut-être pas. Bien là, l'ordre va faire une enquête avec le syndic, puis va aller questionner, en tout cas, bref, tout ça, faire une enquête, puis après ça, ils vont prendre position à la fin de l'enquête, puis ils vont dire est-ce que la plainte est retenue ou pas, ou qu'est-ce que tu dois faire pour comme poursuivre ton travail et pas perdre ton titre, ou pas avoir d'amende, ou pas avoir de sanctions, là, c'est vraiment ça, là. Mais ça vient toujours d'une plainte.
Puis, bien souvent d'autres collègues, j'imagine.
D'autres collègues, c'est ça.
Des parents random vont juste aller faire une plainte que tu as présenter un livre sur ton Instagram.
Puis quand tout ça est sorti, les parents étaient comme complètement déboussolés, puis on a eu plein de super beaux messages justement de parents qui étaient comme « ben c'est vraiment dommage, on aime beaucoup ce que vous faites », puis tout ça, puis la plainte elle venait de l'intérieur, tu sais, de collègues, en fait, là.
Fait que... Ouais! Puis c'est ça qui est dommage aussi, parce que, tu sais, puis on peut voir, tu sais, moi je comprends aussi qu'on enlève de l'accessibilité aux parents à avoir des ressources qui sont justement jugées par des professionnels. Parce que, encore une fois, tu sais, on peut... Puis j'ai l'impression que ça nous protège même de marketing quand, si par exemple, je te fais confiance puis je dis « j'aimerais ça voir sa liste de suggestions pour des livres », à la place d'aller regarder le collant qui a été mis par un pro du marketing random sur une boîte de jeux... Puis que là, je dois me baser uniquement sur ça, puis des reviews de parents sur Amazon. Tu sais, c'est dommage de ne pas avoir accès à ce genre d'expertise-là, comme de n'importe quoi.
Je pense que, tu sais, comme professionnel, justement, tu sais, quand on est professionnel, on a quand même, je veux dire, on a un jugement clinique, c'est ça notre job, là, de juger, d'avoir un jugement clinique, c'est ça notre travail, là, avec des enfants, avec le matériel qu'on utilise et tout ça. Fait que, tu sais, je veux dire, s'il y a un jeu que je trouve qui convient pas, tu sais, j'ai déjà eu des, dans le temps qu'on avait le droit de faire ça, tu sais, des personnes qui m'envoyaient des jeux, ça arrivait à quelques reprises, tout ça. Mais tu sais, on va pas, je travaillais pour un blog aussi, un gros blog, là, avec plein de personnes. Mais tu sais, on n'allait pas présenter les livres qui nous conviennent pas, tu sais, qui respectent pas nos critères, puis qu'on n'aime pas, pas parce que quelqu'un nous l'a envoyé, qu'on va absolument comme
c'est la responsabilité professionnelle aussi.
Mais oui, vraiment.
Derrière tout ça, derrière toutes les choses que tu... Puis je pense que c'est la même chose pour n'importe quel influenceur, tu sais, c'est leur crédibilité aussi quand ils mettent de l'avant n'importe quel produit, là, tu sais, à un moment donné, les gens, ils savent que tu leur vends de la merde ou que
tu... Oui! Tu sais, je l'ai fait encore, tu sais, là, je fais des... Je l'ai fait, c'est drôle, hein, parce que je fais encore ça, mais sous forme de maman, tu sais, dans le sens où je fais encore des critiques de livres, des choses comme ça, mais je peux pas les partager, je peux pas dire que je suis orthophoniste, tu sais, c'est vraiment pour les parents, tu sais, qu'on fait ça, mais je les présente pas tous, les livres, tu sais. Je veux dire, il y a des fois des livres, puis il y en a que moi, j'ai acheté moi-même, puis que je vais les présenter parce que je les trouve très pertinents, tu sais, je retire rien de ça, sauf aider d'autres personnes qui ont pas les mêmes connaissances que moi, tu sais, fait, bref.
Ouais, puis récemment, t'as lancé un nouveau compte Instagram, justement, parce que tu sais, t'as un compte Instagram vraiment actif en tant qu'orthophoniste, mais récemment, t'as aussi... Puis je pense que, tu sais, on s'en était parlé, puis je t'ai dit, dans ton cas à toi, t'es une des rares personnes à qui je dis, ben oui, let's go, genre, fais un deuxième compte parallèle, parce que selon moi, c'est toujours comme, non, tu sais, tu parles d'un seul lieu, mais dans ton cas à toi, c'était important de l'avoir, puis qu'est-ce que tu voulais faire avec ce nouveau compte-là? Ben, c'est un peu différent de ce que tu fais, un peu beaucoup différent de ce que tu fais comme orthophoniste, mais je trouvais ça intéressant de parler aussi de cette... cette façon que tu as eue d'ouvrir la conversation autour de certains autres sujets comme ça.
Oui, bien exactement, parce que en fait, il y a beaucoup de sujets qu'on ne peut pas aborder, justement. Puis il y a plein de personnes, tu sais, tu disais tantôt, j'ai beaucoup de collègues orthophonistes qui me regardent aller, qui me suivent, qui me posent des questions, qui m'envoient des messages, tout ça, puis qui essaient de voir un peu, justement, c'est quoi ma courbe d'apprentissage, je suis passée par où pour arriver là, puis être présente, puis faire des formations, puis tout ça. Fait que j'ai beaucoup de questions, puis j'avais envie de pouvoir en parler, puis je ne pouvais pas en parler sur mon autre compte. Je ne pouvais pas parler de ce que j'ai lu, je ne pouvais pas parler des formations que j'ai suivies, de mes coachs, mes mentors. Tu sais, j'étais comme bloquée par rapport à ça. Et j'avais en coulisses beaucoup de questions qui venaient sur ce sujet-là, puis je trouvais ça vraiment fâchant, fâchant de ne pas pouvoir en parler ouvertement puis transmettre cette information-là, parce que moi, ça m'a pris, ça va faire 2 ans et demi, deux ans et demi à peu près que je travaille plus sur le web. J'ai appris tellement de choses, puis je sais que, justement, on n'est pas dans ce monde-là, on n'est pas dans ce milieu-là, on les connaît pas les personnes, on les connaît pas les ressources au début, puis juste pouvoir comme aider, guider, accompagner, pour moi, c'était super important, cet aspect-là, puis je pouvais pas le faire sur mon compte d'orthophoniste, donc je me suis dit, bon, tant pis, j'ouvre quelque chose d'autre, puis je vais m'adresser vraiment, puis à mes collègues orthophonistes, mais aussi à plein d'autres professionnels, j'ai des nutritionnistes qui me suivent, des ergothérapeutes, des physiothérapeutes, toutes les personnes qui ont justement un ordre professionnel, puis qui sont un peu limitées, ou qui ont des contraintes, ou qui ont des contraintes pas très claires, hein, c'est toujours ça, fait que c'est quoi ton interprétation, puis oui, on peut appeler à l'ordre, mais tu sais, moi, j'ai appelé donc, il y a des informations que j'ai, que peut-être certaines personnes n'ont pas. Donc, c'est vraiment ça mon but, là, transmettre toutes ces informations-là, puis un peu encourager, puis dire que ça se fait, tu sais, parce que je vois beaucoup de projets qui sont comme limités, restreints, ou qui sont pas vraiment, il n'y a pas beaucoup de promotion qui est faite, ou la promotion n'est pas faite de façon peut-être optimale, justement parce que les personnes n'ont pas les compétences, ont vraiment peur de se montrer, puis de se faire dire après ça, ben tu peux pas faire ça, tu sais, parce que plus tu es visible, plus tu as de chance justement d'être vu et d'être pointé du doigt si tu fais un petit pas de travers, tu sais. Fait que de partager vraiment ça avec les autres personnes.
Oui, puis encore une fois, pour le bénéfice des personnes que vous aidez, parce que ultimement, c'est pour pouvoir servir plus de monde, parce qu'il y a des réelles limitations avec le modèle à travers lequel c'est comme une personne voit une personne pendant une heure et puis ça implique tout ça. Fait que, tu sais, est-ce que, selon toi, les ordres, ou ton ordre, là, parce que tu peux pas parler pour les autres nécessairement, mais est conscient de ces limitations-là, puis est-ce qu'il y a comme des comités de travail autour de ça qui réfléchissent à ces questions, puis parce qu'ils doivent bien voir ce qui se passe aussi, là, dans le monde extérieur?
Oui. Bien, je te dirais que oui, ils sont conscients de ça. Ils sont quand même un petit peu coincés, je te dirais. T'sais, pour avoir parlé avec le président de mon ordre, à qui j'ai demandé de parler, j'ai appelé, j'ai dit « Est-ce que je peux parler avec le président pour avoir une discussion ouverte sur plein de sujets? » Oui, ça, c'est mon genre. Mais tu sais, oui, mais ils ont quand même une réalité qui est, c'est un organisme. Il s'est régi par un code de déontologie qui date de les années 80, une affaire comme ça. Changer un code de déontologie, c'est vraiment pas si simple que ça. En plus, il y a ce qu'on appelle le code des professions qui va régir en plus tous les professionnels, qui est comme un autre document légal. Fait que apporter des changements là-dedans, c'est vraiment pas facile. Fait qu'il y a ça. En même temps, comme on disait tantôt, pour moi, c'est tout de l'interprétation. Donc, tu sais, moi, ce que je parle avec eux, c'est mon interprétation versus votre interprétation n'est pas la même, tu sais, à partir de ce document. Oui, on est pris dans un cadre comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut s'adapter. Fait qu'il y a une ouverture, je te dirais, mais c'est long. C'est vraiment long. Faire bouger les choses, c'est long. Ils ont fait, c'est ça l'année passée, quand toute la saga de ce qu'on pouvait mettre sur les réseaux sociaux ou pas, les enquêtes, tout ça est arrivé, lors de fait un document plus officiel, plus clair, avec lequel je ne suis pas d'accord, justement, parce que mon interprétation n'est pas nécessairement la même que la leur, mais au moins, on a des balises claires, puis on sait ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Donc, on ne va pas faire des choses, en tout cas, moi, j'ai pris la décision de respecter ça, puis de ne pas faire des choses qui me sont interdites pour ne pas me faire, je sais pas, taper sur les doigts un peu par la suite, mais au moins, là, c'est clair. Mais tu sais, on a demandé, nous, une comité de consultation, pour les aider à faire ce document-là. Fait qu'il y a une ouverture, ils ont accepté de faire un comité de consultation et tout ça, mais je te dirais que ça reste très, très rigide, très, très strict, ça bouge, mais pas très vite, mais ils sont très conscients, puis ils parlent d'innovation, ils parlent de faire autrement, ils sont en train d'essayer d'encadrer mieux les intervenantes en stimulation du langage, qu'on appelle, qui sont comme un peu nos techniciennes, nos bras droits, parce que c'est quelque chose qui n'existait pas dans le temps, puis là, qu'est-ce qui appartient à qui? Fait qu'ils ont comme fait des mesures par rapport à ça, parce que ça l'aide beaucoup à avoir plus d'enfants. Fait que ça bouge, mais ça bouge pas très vite, puis ça bouge à l'intérieur d'une boîte.
J'ai eu un flash, faut que je te le partage. J'ai eu un flash que tu vas devenir comme une conseillère, genre gouvernementale ou quelque chose.
Bref. C'était drôle quand j'étais à l'université, mes amis disaient que j'allais être présidente de l'ordre, tu sais, parce que j'étais très impliquée, j'étais partout. Puis justement, tu sais, je brassais un peu la cage, puis j'étais comme non, ça marche pas. Puis, fait que c'est ça. Puis en même temps, tu sais, il y a plein de gens qui me disaient, ah, ben pourquoi tu t'impliques pas plus? Puis, tu sais, oui, mais non, parce que je vais me sentir
trop prise. Machine, là. Puis là, quand tu rentres dans ces grosses machines-là. Puis tu sais, je le sais aussi que j'ai eu la conversation à part avec certains autres professionnels dans d'autres ordres, comme par exemple des psychologues. Tu sais, il y en a qui choisissent littéralement d'abandonner leur titre puis d'opérer sous un titre non réglementé, comme coach ou des choses comme ça, parce que, justement, il y avait des techniques ou des choses comme ça qu'ils avaient vues qui fonctionnaient avec certaines personnes ou il y avait des certaines façons qui voulaient fonctionner. Encore une fois, toujours dans le but d'augmenter leur impact auprès de leurs clients puis de leurs patients. Il y a quelque chose de quand même un peu... Est-ce que je vais dire le mot? Tu sais, c'est très patriarcal, cette façon de dire comme on sait mieux que vous comment servir le monde parce que ces gens-là sont pas capables de prendre des décisions par eux-mêmes. Puis dans certaines circonstances, je comprends, hein, tu sais, il y a des gens dans des situations hyper vulnérables qui vont regarder ces professionnels, tu sais, les professionnels, puis attendre qu'on leur dise quoi faire justement, mais... Puis ça, j'imagine que c'est la chose qu'on peut pas évaluer, tu sais. Qui est en contact avec le matériel ou avec l'information ou avec le message? Puis c'est juste, comme tu dis, hein, c'est pour protéger les cas probablement les plus à risque que là, ben tout le monde doit se plier à ce genre de choses-là.
Oui. Puis... T'sais, nous, en fait, dans les communications, il y a dans les nouvelles normes qu'on a, on a des choses qu'on peut communiquer à d'autres professionnels, du contenu, puis d'autres choses qu'on peut communiquer à des personnes non... Comment ils appellent ça? Il y a vraiment un mot, là, genre pas non qualifié, là, mais quasiment là, t'sais, non informé. Là, t'sais, fait que parents, éducatrices, enseignantes, on considère qu'eux, ils n'ont pas les mêmes connaissances, c'est vrai, là, ils n'ont pas les mêmes connaissances, mettons, que d'autres collègues orthophonistes. Donc, le contenu qu'on peut transmettre, tu sais, je peux transmettre T'sais, si je m'adressais juste uniquement à des orthophonistes, je pourrais partager des suggestions de livres d'activité, tout ça, mais pas à des parents. C'est parce que c'est pas, ils n'ont pas le même niveau de connaissance. C'est un peu ça qu'on prend pour acquis. Moi, ça me questionne. me questionne beaucoup. Puis ouais, juste revenir sur ton histoire de... Il y a beaucoup de personnes qui sortent de l'ordre, puis il y a des orthophonistes aussi qui sont sortis de leur ordre. Moi, j'ai une collègue neuropsychologue que j'ai invitée sur mon podcast qui a une approche très, très semblable à la mienne. Puis justement, après avoir été un peu critiquée dans sa façon d'intervenir, elle est sortie de son ordre aussi. Il y en a beaucoup. Moi, je trouve ça triste. Moi, je trouve ça super dommage. Puis, honnêtement, j'y ai pensé plein de fois. Là. Moi-même, j'y ai pensé plein de fois de me dire, ben voyons, ça serait bien moins compliqué si je n'étais pas orthophoniste pour vrai. Puis en même temps, moi, je veux pas baisser les bras. Tu sais, je suis comme en mode, il y a encore des choses à faire. Je vais essayer de me battre de l'intérieur puis de faire évoluer les choses comme orthophoniste en gardant mon titre puis en faisant avancer tout ça plutôt que de me retirer puis de faire ce que je veux. J'ai l'impression que... T'sais, j'aime beaucoup ma profession, là. J'y crois beaucoup, j'aime beaucoup ma profession, j'aime ça être orthophoniste, j'aime mon titre. Je vois plein de collègues qui font une super bonne job aussi, qui veulent mettre des choses de l'avant. Fait que je pense qu'au lieu de quitter, j'aime mieux comme travailler à l'intérieur, réunir des gens au pire avec moi, puis essayer qu'on travaille ensemble pour faire avancer les choses, là, plutôt que juste laisser tomber.
Puis ça n'aura pas le choix d'avancer, tu sais. C'est juste comme tu dis, c'est juste que ça va prendre probablement du temps, puis des choses qui vont être... Il faut que quelqu'un, à un moment donné, dise « Bon, ben le gros document compliqué, on va s'y mettre. » Mais il y a le système aussi qui peut supporter un certain nombre de demandes. Hein, parce qu'il y a les parents aussi qui continuent à avoir besoin de ces services-là puis qui continuent, dans certains cas, à pas avoir accès. Puis c'est la même chose avec les psychologues. Les psychologues qui sont... sur saturation, puis que c'est extrêmement difficile d'avoir accès à ce genre de professionnel-là, puis il doit y avoir en tout cas, il y a des choses à faire, mais que vous avez un peu les mains dans le dos parce que vous n'êtes pas capable, vous ne pouvez pas sortir de certains cadres d'activité.
Puis, tu sais, on a parlé beaucoup de la présence en ligne, l'influence, puis tout ça, mais il y a vraiment aussi tout ce qui est les règles, tu sais, notre tenue de dossier, toutes les règles administratives en lien avec notre profession. On doit faire des rédactions de rapports, on doit faire des notes à chaque suivi. Quand c'est des groupes, c'est compliqué. Maintenant, on peut faire notes de groupe, par exemple. Mais, tu sais, nous, en orthophonie, je sais que les nutritionnistes, c'est plus compliqué. Tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de contraintes comme ça qui font en sorte que, tu sais, changer notre pratique, complexe pour nous aussi, ça nous demande beaucoup d'ajustements, puis qu'est-ce qu'on doit faire comme document, on a des dossiers, c'est confidentiel, on peut pas utiliser tous les logiciels pour communiquer l'information, tu sais, ça l'ajoute beaucoup à la charge, c'est pas juste comme je vais utiliser cette plateforme-là, ok, c'est hébergé où, les données, tu sais, c'est gros, ouais,
je comprends. Fait qu'il
y a tout ça autour,
Bon, j'ai une dernière question pour toi qui serait peut-être justement dans cette ouverture-là. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un, orthophoniste, ou même une future orthophoniste, quelqu'un qui comme rentre dans la profession puis qui est comme plein d'espoir et d'étoiles dans les yeux, qui se sent peut-être impuissant face à sa volonté de changer les choses? Puis, tu sais, ça peut être orthophoniste, mais ou quelqu'un qui est dans un genre de situation semblable.
Mon Dieu, ça serait quoi mon message? Je dirais que c'est possible. C'est vraiment ça le message que moi j'essaie de transmettre. C'est possible de changer les choses, c'est possible de faire autrement, c'est possible de s'adapter aux contraintes. T'sais, les contraintes, elles sont là. Le cadre, il est là. Il faut comme vivre avec, je te dirais. Mais dans le cadre, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Fait que c'est possible. Je dirais, tu sais, de pas suivre le moule, tu sais, de pas juste prendre pour acquis. Voici comment ça se fait, voici comment tout le monde fait, donc je vais y aller de cette façon-là. Puis quand on commence, c'est pas si évident, je te dirais, de faire ça parce que, tu sais, souvent, nous, en plus, on a des stages dans notre profession, on a plusieurs stages dans notre parcours, fait qu'on est beaucoup influencé par la personne qui nous accompagne en stage, hein. Je veux pas notre maître de stage, tu sais, notre stage final, on passe 2 mois et demi à peu près avec cette personne-là, donc on prend beaucoup de ses façons d'intervenir et tout ça. Mais moi, je dirais, tu sais, de voir plus grand, de s'ouvrir à tout ce qu'il y a autour, justement, de participer à des formations continues, des communautés de pratique, parce que, justement, il y a plein de... On est de plus en plus soudés, je te dirais, dans notre communauté. Je trouve qu'on a une belle communauté. Puis il y a beaucoup de personnes qui ont des belles idées. Puis quand on s'assoit ensemble, puis on en jase, des fois on fait des rencontres, bien là, il y a plein d'idées qui émergent, des façons de réduire notre temps de rédaction, des façons de présenter un service autrement, des façons de faire des petits groupes au lieu de, puis dans plein de milieux différents. T'sais, moi, je suis au privé, mais je sais que ça existe dans les milieux publics aussi, en CLSC, dans le milieu scolaire, tout ça. Fait qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont des idées puis qui veulent mettre avant les choses. Fait que ça évolue. Ça évolue tranquillement. On sort un petit peu des cadres, des moules plus classiques. Ça fait du bien. Fait que c'est possible. Puis, tu sais, c'est la méthode classique. Moi, tu sais, je fais toujours attention parce qu'il y a des gens qui font des suivis en individuel, un à la fois, qui sont bien heureux là-dedans. Les parents sont heureux, eux autres sont heureuses. Pas de problème. Tu sais, c'est parfait comme ça, mais il y a la possibilité de faire autrement, il y a la possibilité de faire autre chose.
Ouais, puis pour, tu sais, je pense que de s'ouvrir justement à ces communautés-là, ça va peut-être faire moins de monde qui se sentent obligés d'aller envoyer des plaintes quand quelqu'un fait des choses différemment, quand tu es capable de le voir avec curiosité puis ouverture au lieu de simplement comme, ben là, pourquoi moi, je peux pas faire les choses de même si elle, elle le fait?
Oui, c'est vraiment, oui, c'est vraiment ça.
Comment tu <people? rire>
Oui, c'est ça.
OK, Lauriane, là, c'est le moment où je te demande où on te suit, comment on peut travailler avec toi puis tout ça. Puis je veux vraiment que tu mentionnes que tu as fait récemment un atelier sur le sujet. Parce que genre, j'aimerais ça savoir si tu vas le refaire. Parce que, tu sais, vu que les gens qui écoutent ça sont probablement intéressés par ce type de conversation-là, puis de t'entendre parler justement de cette innovation-là au sein de... c'est ça, de professions très encadrées, là, je pense que ça... C'est quelque chose qui ne se fait pas beaucoup et qui a besoin justement d'être entendu.
Oui, ben oui, écoute, ben oui, j'ai fait un atelier juste avant les fêtes sur la promotion des services, faire la promotion de services différents, dans le fond, quand on est membre d'un ordre professionnel. C'est ça, un atelier qui a eu beaucoup de succès. Donc, plus peut-être que je l'avais anticipé de plein de professionnels différents, fait que c'était super enrichissant. Puis oui, je vais le refaire. Probablement que je vais le modifier, l'améliorer, ajouter de l'information parce que on a eu des belles discussions avec les personnes. J'ai eu des questions qui sont venues à la suite de ça. Donc, j'ai vraiment hâte. Puis, je vais le redonner, c'est sûr. Je sais pas encore quand, je sais pas encore sous quelle format. Ça viendra sous peu, mais si vous voulez être au courant de ça, me suivez. Ben là, j'ai deux comptes Instagram. Comme Tatiane a dit. Fait que j'ai un compte qui s'appelle Lauriane Orthophoniste, qui est pour tout ce qui est orthophonie. J'ai un compte qui s'appelle Lauriane Lacerte, qui est pour tout ce qui est entrepreneuriat, développement, entreprise et tout ça. Donc voilà. Puis sinon, j'ai une infolettre dans laquelle je vais parler, oui, de langage, mais aussi de plein d'autres choses, de développement, d'un peu de mes réflexions, justement, par rapport au sujet de l'évolution de ma profession, de comment moi, je réfléchis, je fais les choses autrement. Sur mon site web, on trouve quand même facilement mon infolettre, là, avec laurianelacerte.ca.
Cool, on va mettre les liens naturellement vers tout ça. Et en tout cas, moi, du moins, je suis très intéressée et excitée à voir tout ce que tu vas créer dans les prochains mois et années jusqu'à ton rôle de conseil gouvernemental sur les professions du Québec. Lauriane, merci infiniment pour toute cette sagesse, pour ta présence, puis pour le travail que tu fais aussi, naturellement, là, avec les parents, avec les enfants, puis avec tes collègues. Et on se parle bientôt.
Merci beaucoup.
Salut les ambitieuses! Si tu résonnes avec le contenu que je te partage ici dans ce podcast, alors c'est que tu es prête à entrer dans l'univers de Money Brand. Money Brand, c'est mon programme unique de savoir-être entrepreneurial qui plonge avec toi autant au niveau de tes stratégies d'affaires, de visibilité et de positionnement que de ton mindset d'entrepreneur pour t'amener à assumer pleinement tes ambitions, embrasser ton identité d'expert et connecter avec les gens qui ont le plus intensément besoin de savoir qui tu es. Money Brand, c'est pas juste un programme de coaching et des stratégies marketing. C'est aussi une communauté tissée serrée, des réflexions en profondeur, du support hebdomadaire, des rires, parfois des pleurs et des grands chamboulements qui vont te faire sentir pleinement en vie et pleinement épanoui dans ta business. Alors, si t'es prête à transformer ton entreprise en un véhicule puissant d'épanouissement qui feel aussi bien dans ta tête que dans ton cœur et ton portefeuille, la première étape, c'est de venir nous parler de toi dans le formulaire de candidature. Sache que remplir le formulaire ne t'engage absolument à rien d'autre que d'avoir un beau tête-à-tête avec ta business, ta vision et tes valeurs, en plus de te donner accès à mon atelier « Comment établir une marque à la hauteur de ton potentiel, sans compromis sur tes ambitions, ton lifestyle ou ta personnalité ». Pour envoyer ta candidature, c'est facile, rends-toi sur aimetamarque.com/moneybrand. Je répète, aimetamarque.com/moneybrand.